atypique, utopique, une île est la dernière création théâtrale de la compagnie L'Entreprise, écrite et mise en scène par François Cervantes. Bonjour François.
Bonjour.
Un spectacle avec lequel tu fais le pari de la permanence, puisque 47 représentations sont prévues à la Friche jusqu'au 15 mars. Pourquoi cette volonté d'une programmation dans la durée ?
L'installation à la Friche La Belle de Mai à Marseille, c'était avec l'idée, en ligne d'horizon, de pouvoir jouer 6 mois à Marseille, qui est la deuxième ville de France. On est en train d'avancer petit à petit. On a déjà joué pendant 2 mois, mais avec le répertoire, donc plusieurs créations les unes derrière les autres. Et là, c'est la première fois sur une seule création qu'on joue sur une très longue période. Et c'est une envie profonde qui est née depuis une dizaine d'années pendant les tournées, d'établir une autre forme de rapport avec le public qui inclut la patience, le temps, le bouche à oreille, le fait de partager des choses, une idée qui est pratiquement impossible en ce moment, parce que quelqu'un qui voit un spectacle, le temps qu'il prévienne des gens qui sont occupés, la programmation est finie. Donc le théâtre se fait en gros pour les abonnés qui, au début d'année, déclarent leur intention d'aller au théâtre. Alors que là, c'est de se dire qu'on va aller sur des chemins de traverse et on aura peut-être des surprises. C'est déjà arrivé la saison dernière, voir quelqu'un qui vient fêter son anniversaire, qui déboule avec 40 personnes, qui a eu le temps de se préparer à ça. Donc c'est d'ouvrir un temps et c'est aussi une occasion formidable de travailler avec les acteurs, de répéter dans la journée, jouer le soir, c'est-à-dire d'installer une autre forme de travail qui est un travail de maison.
C'est pas uniquement un pied de nez aux programmateurs qui ont tendance à ne faire apparaître que les spectacles que pendant une journée, 2 jours, 3 jours, 3 soirs, un peu une haute rotation des spectacles.
C'est une conversation avec eux. Il y a des raisons tout à fait claires qui font que les spectacles apparaissent difficilement plus d'une semaine. Mais on se suicide tous avec cette logique. Ça nous amène vers l'événementiel. Les créations se font très vite, sont jouées très peu. Et finalement, une désespérance qui gagne. Alors, je crois que l'art est en rapport avec non seulement la durée, mais l'intemporel. On a toujours des toiles de Giotto, on a toujours, on peut mettre côte à côte des toiles de Bacon avec des toiles de Giotto. Alors, le théâtre part dans une frénésie parce qu'on a trop de voilure sur l'argent, l'accélération du temps, le temps politique. C'est une envie d'essayer de réinstaller le théâtre dans un territoire de l'art. C'est un territoire où le temps n'entre pas facilement.
À propos de cette idée de permanence, tu la mets en débat le 31 janvier à 15h avec la collaboration de la revue Mouvement. Peut-être quelques mots sur ce plateau, sur ceux qui vont y intervenir.
Alors c'est au départ l'envie de parler sur ces enjeux-là, qui ont beaucoup un spectre très étendu, donc de partager un moment de discussion avec des hommes politiques, avec des directeurs de théâtre, des équipes artistiques, pour essayer de voir quels sont les enjeux de la permanence artistique, qu'est-ce que ça met en tension, parce que c'est effectivement un mouvement qui va complètement à contre-courant. On dit en Indonésie que pour faire un bon montreur d'ombre, il faut 6 générations. Donc là, ça pose aussi la question de la permanence à une autre échelle. On n'en est pas capable, bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour le perdre de vue. Alors, par exemple, l'invitation de Thierry Fabre, qui dirige la revue de la Pensée de Midi, c'est aussi pour donner un écho du monde méditerranéen qu'il connaît très bien, où on a encore des formes de théâtre traditionnel. On a encore cette transmission très forte, c'est-à-dire oser s'attaquer à des enjeux que nous ne pourrons pas résoudre de notre vivant, mais peut-être transmettre à d'autres. Donc forcément, de donner plus de place à la transmission. Alors c'est un peu, espérer que ce soit une après-midi de débat dans tous les domaines, d'aller de l'argent jusqu'à ces considérations plus abstraites mais pourtant très présentes.
Revenons dans ton île, enfin ton île, elle est assez universelle en fait cette île. 4 comédiens, 12 masques, 12 essences d'humanité, 12 portraits et un artiste disparu. Quelque chose de symbolique dans cette armée des 12 sages.
Au départ, avec les masques et le projet avec Didier, c'était de sculpter des visages qui sont un peu des archétypes. C'est dans des galeries de visages qu'on rencontre dans notre vie. Des fois, on se heurte comme ça à des gens, on les trouve un peu comme des huiles essentielles, des choses qui sont très concentrées. Sinon, c'est aussi des visages qui peuvent paraître très, très communs, qu'on a déjà croisés, la beauté, l'adolescence, le vieux, le commerçant. Et c'est une fable autour de cette petite épopée. J'avais envie qu'elle soit à la fois très proche de nous, et puis qu'elle s'en aille dans quelque chose de fermé, comme une fable, hein, sur la réflexion, le rapport que l'on fait maintenant à la mort, qui est finalement très proche du rapport que l'on fait à l'art. C'est deux choses qu'on est en train d'exclure de nos vies. Et donc c'est une pièce qui part de ça, à partir de l'objet du masque qui est figé, et pourtant tellement vivant et tellement impressionnant.
Les vivants et les morts, effectivement, se croisent, se partagent les rivages parfois austères de cette île. C'est un petit peu étrange dans notre culture occidentale, qui a plutôt tendance à isoler de manière très, très claire et très étrange les vivants et les morts. Mais peut-être plus courant dans d'autres cultures que tes voyages t'ont amené à rencontrer. Il y a d'ailleurs quelque chose d'un carnet de voyage dans cette pièce. Tu as écrit ce projet il y a longtemps, tu le portes en toi depuis longtemps.
Ça fait 15 ans que je porte ces masques-là et que je porte la tentative d'écrire un spectacle avec plusieurs masques. Il y a une tentative qui était l'épopée de Gilgamesh, où il y avait une équipe qui était pour moitié javanaise et pour l'autre française, où on a fait les premiers galops sur une tentative comme ça. Et c'est une deuxième tentative sur comment orchestrer quelque chose qui inclut une famille de masques. Et comment orchestrer cet aller-retour entre les comédiens, dont on voit le visage, qui sont aussi des comédiens, on baigne dans une culture de cinéma, de l'image, et puis une chose qui des fois peut paraître se perdre dans une poésie lointaine, enfin une chose peut-être beaucoup plus épurée. Donc c'est un projet qui date depuis longtemps et qui continue.
Un texte dont tu es l'auteur, un texte particulièrement ciselé, au point qu'on aimerait pouvoir le lire indépendamment de la pièce. Peut-être un projet d'édition sur ce texte en cours.
Oui, ben merci, ça fait plaisir. En tout cas, c'est un texte où les didascalies vont être importantes, parce qu'il y a des scènes sans parole qui ont été écrites avec 4 ou 5 pages de texte. Donc on est plus dans la nouvelle ou dans une forme romancée. Et donc il faut le temps de la mettre en place pour que ce soit la partie dialoguée, la partie des didascalies, parce qu'on voit aussi ce qu'on voit sur le plateau, on le voit, c'est à mi-chemin entre le roman et la pièce de théâtre.
Du théâtre de masques, comment est-ce que les masques sont apparus ?
Eh bien, les masques, la première fois que je suis rentré en contact avec les masques, c'est par Didier Moutura, qui était directeur de théâtre et qui, un soir où il accueillait la compagnie, m'a demandé de le suivre dans son bureau et m'a ouvert des malles et des cahiers de photographie qui m'ont fasciné et qui m'a proposé de reprendre le flambeau. Et depuis, il y a une série de créations, une série de voyages. Moi, je suis toujours face à ce mystère du masque. J'en ai connu beaucoup, on est allé récemment en Afrique, mais je me heurte là à un objet qui est sans doute né à peu près aux mêmes époques que les peintures rupestres, hein, qui est bien plus ancien que le théâtre. C'est aussi une manière de dire que la voix courante qui fait qu'on origine le théâtre chez nous en Grèce, je ne le ressens pas comme ça. Je le sens dans une origine plus sombre, plus ambiguë, plus violente et plus tellurique, et non pas un débat sur la démocratie orchestré par des poètes, et que je crois de plus en plus que le texte du théâtre, au sens profond, est dans le corps de l'acteur, c'est-à-dire le texte qui est un mélange de muscles, de nerfs, d'émotions, et que l'auteur est un passeur, un traducteur, quelqu'un qui orchestre cette rencontre. Donc le masque est un outil extraordinaire, un véhicule extraordinaire pour essayer d'aller dans ces endroits-là, qui seraient non pas des traditions qui me fascineraient, que j'essaierais d'imiter, mais ce que ces traditions ont réveillé en moi, qui dormait comme étant un terrain de la tradition, c'est-à-dire une chose qui est cyclique, plus archaïque, et qui s'est réveillée très fort au contact de ces masques-là.
cette île, ce n'est pas un bout du monde, ce n'est pas un outre-mer, ce n'est pas un cliché. C'est peut-être une image plutôt latente, un entre-deux-mer, un entre-deux-eaux, une zone intermédiaire. S'il y avait un seul mot, peut-être ce serait « entre ».
Ah oui, complètement. Oui. Parce que le fait d'avoir à la fois les visages des acteurs et les masques, on est tout à fait dans l'entre-deux. C'est-à-dire, ce n'est pas un projet sur le théâtre de masques, mais sur le chemin qu'on peut faire vers. Et puis le fait qu'il y ait l'entre-deux, ça dessine une troisième chose qui appartient à chacun, mais qui est qu'on n'est pas en rapport avec les mondes parallèles, mais on n'est pas non plus complètement coupé, et que ces questions-là, on peut les partager.
Une île, Salle Seita, à la Friche La Belle de Mai, jusqu'au 15 mars. Merci François Cervantes.
Merci.